Chapitre 5 Versets 1 à 21 La marche du croyant comme enfant de Dieu. Versets 1 et 2 Citation de l'Écriture. Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants, et marchez dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Fin de citation. Dans cette partie de l'Épître, les croyants sont vus non seulement comme reconnaissant qu'il y a un seul Dieu, mais comme étant en relation avec lui comme ses enfants. Tout le passage nous exhorte à marcher comme il convient à des enfants. Le « donc » du premier verset lit ce passage au dernier verset du chapitre précédent. Dieu a agi envers nous en bonté et en grâce. Et maintenant, il nous convient d'agir les uns envers les autres, comme Dieu a agi envers nous. Nous sommes donc exhortés à être des imitateurs de Dieu, comme de bien-aimés enfants. Nous n'avons pas à chercher à imiter Dieu afin de devenir des enfants, mais parce que nous sommes enfants. Marcher comme de bien-aimés enfants implique une marche gouvernée par l'affection. Un serviteur peut marcher correctement dans une obéissance légale, mais il convient à un enfant de marcher dans une obéissance d'amour. Nous ne sommes pas des serviteurs, mais des fils. Nous ne pouvons pas, et cela ne nous est pas demandé, imiter Dieu dans toute sa puissance, ni dans son omniscience, mais nous sommes exhortés à agir moralement comme lui. Une telle marche sera caractérisée par l'amour, la lumière et la sagesse. Et dans toutes ces choses, nous pouvons être des imitateurs de Dieu. L'apôtre, dans les versets qui suivent, développe cette question de la marche en accord avec ses magnifiques traits moraux. Il parle d'abord d'une marche dans l'amour en contraste avec un monde dominé par la convoitise, versets 1 à 7. Deuxièmement, il nous exhorte à marcher comme des enfants de lumière, en contraste avec ceux qui vivent dans les ténèbres, versets 8 à 14. Enfin, il nous exhorte à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages, versets 15 à 20. Verset 2. Ainsi d'abord, comme enfants, nous sommes exhortés à marcher dans l'amour. Tout de suite, Christ est placé devant nous comme le grand exemple de cet amour. En lui, nous voyons le dévouement de l'amour. Il s'est livré lui-même pour les autres, et ce dévouement monte à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Un tel amour va bien au-delà des exigences de la loi qui demande qu'un homme aime son prochain comme lui-même. Christ a fait plus, car il s'est livré lui-même à Dieu pour nous. C'est cet amour que nous sommes appelés à imiter, un amour qui nous conduirait à nous sacrifier pour nos frères. Un tel amour, dans sa petite mesure, montera, comme il en a été de l'amour infini de Christ, en parfum de bonne odeur à Dieu. L'amour qui a amené l'assemblée à Philippe à répondre aux besoins de l'apôtre a été pour Dieu un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Philippiens 4, versets 16 à 18. Versets 3 à 6 Citation de l'Écriture. Mais que ni la fornication, ni aucune impureté ou cupidité ne soit même nommée parmi vous comme il convient à des saints. Ni aucune chose honteuse, ni paroles folles ou plaisanteries, lesquelles ne sont pas bienséantes, mais plutôt des actions de grâce. Car en effet, vous le savez, connaissant qu'aucun fornicateur, ou impur ou cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Fin de citation. L'amour qui se dévoue au bien des autres exclura l'impureté qui satisfait la chair aux dépens d'autrui et la cupidité qui recherche son propre gain. Notre marche doit être comme il convient à des saints. Le modèle de notre conduite n'est pas simplement une marche qui convient à un homme honnête, mais celle qui convient à des saints. Quand il s'agit pour nous de manifester l'amour, c'est comme de bien-aimés enfants. Quand il faut refuser la convoitise, c'est comme il convient à des saints. En outre, la joie passagère que le monde trouve dans la souillure, les paroles folles et les plaisanteries, sont inconvenantes chez les saints. Ce qui leur sied, c'est la joie paisible et profonde des actions de grâce, et non pas le rire du sot, voir Ecclésiaste 7, verset 6. Ceux qui sont caractérisés par l'impureté, la convoitise et l'idolâtrie, non seulement seront privés des bénédictions du royaume à venir du Christ et de Dieu, mais étant désobéissants à l'Évangile, ils tomberont sous la colère de Dieu. En contraste avec ce présent siècle mauvais, le royaume de Dieu sera une scène où l'amour dominera et dont la convoitise sera exclue. Ce qui sera vrai du royaume à venir devrait marquer la famille de Dieu aujourd'hui. Nous sommes avertis de ne pas nous laisser séduire par de vaines paroles. Chacun sait que les hommes, avec leur philosophie et leur science, excusent la convoitise et cherchent à enrober le péché d'un charme poétique et romantique pour lui donner une apparence attrayante. Eh bien, à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Les fils de la désobéissance sont ceux qui ont entendu la vérité mais qui l'ont rejetée. Les Juifs, au jour de l'apôtre Paul, étaient d'une manière particulière, comme classe, les fils de la désobéissance, mais cela devient rapidement vrai de la chrétienté. Les hommes seront jugés pour leurs mauvaises actions, bien que le péché suprême soit la désobéissance à l'Évangile. Versets 7 à 14. Citation de l'Écriture. N'ayez donc pas de participation avec eux, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté et justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi, car les choses qu'ils font en secret, il est honteux même de les dire. Mais toutes choses étant reprises par la lumière sont manifestées, car ce qui manifeste tout, c'est la lumière. C'est pourquoi il dit « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. » Fin de citation. Nous ne devons pas avoir de participation avec de tels gens. Les enfants de Dieu et les enfants de la désobéissance ne peuvent rien avoir en commun. En second lieu, nous étions autrefois ténèbres. Maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Ce n'est pas simplement que nous étions dans la nuit, ne connaissant pas Dieu, mais nous étions caractérisés par une nature qui est ténèbre, car elle trouvait son plaisir en tout ce qui est contraire à Dieu. Maintenant, nous sommes participants de la nature divine, et cette nature est caractérisée par l'amour et la lumière. Aussi, l'apôtre peut dire, non seulement que nous sommes lumière, mais que nous sommes lumière dans le Seigneur. Étant passés sous l'autorité du Seigneur, nous sommes amenés dans la lumière de ce qui convient à sa nature. Nous aimerons ce qu'il aime. Étant lumière dans le Seigneur, nous avons à marcher comme des enfants de lumière, une marche qui consistera en toute bonté et justice et vérité, car ces choses sont le fruit de la lumière. Marchant ainsi, nous éprouverons dans nos circonstances ce qui est agréable au Seigneur et nous reprendrons les œuvres infructueuses des ténèbres. Quelqu'un a dit « Un enfant, en observant son père, apprend ce qui lui est agréable et sait ce qu'il désirerait dans les circonstances qui se présentent. C'est de cette manière que nous éprouvons ce qui est agréable au Seigneur. » Nous avons déjà été avertis de n'avoir rien de commun avec ceux qui font le mal. Maintenant, nous sommes exhortés à n'avoir rien de commun avec les œuvres des ténèbres. Nous devrions plutôt les reprendre. Parler des choses que la chair peut faire en secret est honteux. La lumière de Christ réprouve le mal qu'elle manifeste. Dans la chrétienté, les gens ne peuvent commettre publiquement les péchés grossiers qui sont pratiqués ouvertement dans le paganisme. La lumière parmi les chrétiens est trop forte. Hélas, dans la mesure où la lumière décline, les péchés s'affichent à nouveau sans retenue. L'incrédule est mort pour Dieu. Le vrai croyant, s'il ne prend pas garde à ses exhortations, peut tomber dans un état de sommeil dans lequel il ressemble à un mort. Dans une telle condition, la lumière de Christ devient inopérante. L'exhortation qui lui convient est « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. » On a dit à juste titre « C'est Christ lui-même qui est la source de la lumière, son expression, et sa mesure pour l'âme qui est réveillée. Versets 15 à 17. Citation de l'Écriture. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Fin de citation. Troisièmement, nous sommes exhortés à marcher avec sagesse. Ayant appris par les 14 premiers versets que la vraie mesure pour une marche droite est la nature de Dieu, lumière et amour, nous devons tirer profit de cet enseignement et marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages. Dans un monde mauvais, le chrétien aura besoin de sagesse, mais cette sagesse est relative à ce qui est bon. Ainsi, dans une autre épître, l'apôtre peut écrire « Soyez sages quant au bien, et simples quant au mal. » Romains 16, verset 19. Notre sagesse se manifestera en ce que nous saisirons l'occasion et comprendrons quelle est la volonté du Seigneur. Les jours sont mauvais, et si le diable pouvait agir à sa guise, il n'y aurait jamais un jour ni une occasion pour ce qui est agréable au Seigneur. Pour faire le bien, il nous faut, pour ainsi dire, ravir l'occasion à l'ennemi. Si nous comprenons la volonté du Seigneur, nous trouverons souvent qu'un mauvais jour peut être transformé en une occasion de faire le bien. Néhémie, par la prière et le jeûne, a pris la volonté du Seigneur concernant son peuple, de sorte que, lorsque l'occasion se présenta, devant le roi Artaxerxès, il la saisit. Néhémie 1, verset 4, Néhémie 2, verset 1 à 5. Il est possible d'avoir une grande connaissance de ce qui est mal, tout en ignorant la volonté du Seigneur et en restant ainsi dépourvu de sagesse. Versets 18 à 21. Citation de l'Écriture. Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Fin de citation. La sagesse donnée de Dieu conduira à la sobriété en contraste avec l'excitation de la nature. Le monde peut susciter une excitation passagère menant à des excès de mal, mais le chrétien a une source de joie en lui, le Saint-Esprit. Ayant l'Esprit, nous sommes exhortés à en être remplis. Si l'Esprit n'était pas attristé, et s'il pouvait contrôler nos pensées et nos affections, nous constituerions un groupe de personnes entièrement séparées du monde et de ses excitations, qui se réjouiraient ensemble dans une vie totalement inconnue du monde et dans laquelle il ne peut trouver aucun plaisir. Cette vie trouve son expression dans la louange qui jaillit de cœur se réjouissant dans le Seigneur. C'est une vie qui discerne l'amour et la bonté de Dieu en toutes choses, quelque éprouvantes que les circonstances puissent être. Aussi rend-elle toujours grâce à Dieu le Père, pour toute chose au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En cela, comme en toute autre chose pour le chrétien, Christ est notre modèle parfait, car quand il était rejeté par Israël, malgré toutes ses œuvres de puissance, en ce temps-là, Jésus répondit et dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Matthieu 11, verset 25. De plus, si nous étions remplis de l'Esprit, nous serions empreints de cet esprit d'humilité et de douceur qui nous amènerait à nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ, en contraste avec la suffisance de la chair qui s'affirme et s'arroge la liberté d'agir sans égard pour la conscience des autres. Ainsi, les croyants remplis de l'Esprit seront caractérisés d'abord par un esprit de louange envers le Seigneur, ensuite par la soumission avec action de grâce à tout ce que le Père permet, enfin, par la soumission mutuelle dans la crainte de Christ. Du verset 22 du chapitre 5 au verset 9 du chapitre 6, la marche du croyant en rapport avec les relations naturelles. Cette partie de l'épître traite de la conduite qui convient aux chrétiens en rapport avec les relations terrestres. L'apôtre parle en premier lieu de la plus intime de ces relations, femme et mari, versets 22 à 33, puis des enfants et des parents, chapitre 6, versets 1 à 4, et enfin des serviteurs et des maîtres. Chapitre 6, versets 5 à 9. En tant qu'individus, nous reconnaissons Christ comme Seigneur et les responsabilités liées à chacune des relations doivent être assurées dans la crainte du Seigneur. La femme doit être soumise à son propre mari comme au Seigneur. Verset 22. Les enfants doivent obéir à leurs parents dans le Seigneur. Chapitre 6, verset 1. Les pères doivent élever leurs enfants sous les avertissements du Seigneur. Chapitre 6, verset 4. Les serviteurs doivent servir comme asservis au Seigneur. Chapitre 6, verset 7. Et les maîtres doivent se souvenir qu'ils ont un maître dans les cieux. Versets 22 à 33. Les relations femme et mari. Citation de l'Écriture. Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur. Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'assemblée, lui le sauveur du corps. Mais comme l'assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit comme aussi le Christ l'assemblée. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'assemblée. Toutefois, que chacun de vous aussi en particulier aime sa propre femme comme lui-même. Et quant à la femme, qu'elle craigne son mari. Fin de citation. Les femmes chrétiennes sont exhortées à se soumettre en toutes choses à leur mari, et les maris chrétiens sont exhortés à aimer leur femme. Les exhortations spéciales ont toujours en vue la qualité particulière dont celui auquel elles s'adressent est susceptible de manquer. La femme est sujette à manquer dans la soumission, et il lui est, par conséquent, rappelé que le mari est le chef de la femme, et que sa place est d'être soumise. L'homme est plus prompt que la femme à manquer d'affection. Aussi, les maris sont-ils exhortés à aimer leur femme. Pour donner tout son poids à la soumission rappelée à la femme et à l'affection demandée au mari, l'apôtre se trouve amené à parler de Christ et de l'assemblée. Et nous apprenons la grande vérité que les relations terrestres ont été formées sur le modèle des relations célestes. Quand Dieu a établi au commencement la relation de mari et de femme, cela a été sur le modèle de ce qui n'existait alors que dans ses conseils, Christ et l'assemblée. Ainsi, d'une part, la relation d'Adam et Ève, l'un envers l'autre, comme mari et femme, devient, dans l'Écriture, la première image de Christ et de l'assemblée. Et d'autre part, Christ et l'assemblée servent à illustrer la vraie attitude de mari et de femme l'un envers l'autre. La femme doit être soumise à son mari, en tant que chef, comme aussi Christ est le chef de l'assemblée, et le sauveur de ses corps mortels. De même, si le mari est exhorté à aimer sa femme, c'est selon le modèle de Christ et de l'assemblée, car il doit l'aimer comme aussi le Christ a aimé l'assemblée. On peut penser que le niveau proposé est très élevé, et que ces exhortations demandant à la femme d'être soumise à son mari en toutes choses, et au mari d'aimer sa femme comme aussi le Christ a aimé l'assemblée, sont très fortes. Mais quelle femme objecterait à être soumise à un mari qu'il aimerait comme Christ a aimé l'assemblée? Et quel mari se lasserait d'aimer une femme qui aurait toujours été soumise comme l'assemblée devrait l'être à Christ? Le cœur de l'apôtre est si rempli de Christ et de l'assemblée qu'il saisit l'occasion de ses exhortations pratiques pour exposer d'une manière très parlante les relations éternelles de Christ et de son assemblée qu'il nous convient de considérer. Il nous rappelle que Christ est le chef de l'assemblée, et que Christ a aimé l'assemblée, et qu'il la nourrit et la chérit. Elle a en lui la tête pour la conduire, le cœur pour la chérir, et la main pour répondre à tous ses besoins. Au milieu de toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, notre ressource infaillible est de regarder à Christ notre chef pour obtenir sagesse et direction. Dans toutes nos peines et toutes les défaillances de l'amour humain, nous pouvons compter sur l'amour immuable de Christ qui surpasse toute connaissance, et dans tous nos besoins, nous pouvons compter sur ses soins et ses ressources. En outre, l'amour de Christ est placé devant nous d'une triple manière. Il y a ce que son amour a fait dans le passé, ce qu'il fait dans le présent et ce qu'il fera encore dans l'avenir. Dans le passé, Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Non seulement il a renoncé à une couronne royale, aux gloires du royaume et à ses aises terrestres pour suivre un chemin d'humiliation et de douleur, mais à la fin, il s'est livré lui-même. Il ne pouvait pas donner davantage. Il n'est pas seulement mort pour nous dans le passé, il vit pour nous dans le présent. Aujourd'hui, il sanctifie et purifie l'assemblée par le lavage d'eau par la parole. Il s'occupe chaque jour de nous, nous séparant de ce monde mauvais et nous purifiant pratiquement de la chair. Ce travail béni est effectué par l'application de la parole à nos pensées, à nos paroles et à nos voix. Souvenons-nous qu'il n'a pas d'abord rendu l'assemblée digne d'être aimée, pour ensuite l'aimer et se livrer pour elle. Il l'a aimée telle qu'elle était, et ensuite il s'est livré lui-même pour elle. Et maintenant il travaille à la rendre propre pour lui-même. D'une manière très précieuse, Dieu a agi selon le même principe quant à Israël. L'Éternel a pu dire à ce peuple « Je passais près de toi, et je te vis gisante dans ton sang. Tu étais nue et découverte. Et je passais près de toi, et je te vis, et voici, ton âge était l'âge des amours. Et j'étendis sur toi le pan de ma robe, et je couvris ta nudité, et j'entrai en alliance avec toi. Et je te parais d'ornements, et je mis des bracelets à tes mains, et un collier à ton cou, et une couronne de beauté sur ta tête, et tu devins extrêmement belle. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite par ma magnificence que j'avais mise sur toi. » Ézéchiel 16, versets 6 à 14. Le temps du besoin pour Israël était pour Dieu le temps d'aimer. Ainsi, Christ a aimé l'assemblée dans toute la profondeur de son besoin, et il s'est livré lui-même pour elle. Puis, l'ayant acquise, il l'a purifiée et la rend propre pour lui. Nous ne sommes pas satisfaits si l'objet de notre amour n'est pas à notre ressemblance, et Christ ne sera jamais satisfait avant que l'assemblée lui soit parfaitement conforme. Bientôt, dans son amour, il se présentera à l'assemblée à lui-même, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. La sanctification présente, du verset 26, est liée à la présentation en gloire du verset 27, c'est-à-dire la condition dans laquelle nous serons présentés à Christ en gloire, saint et irréprochable, est la mesure de notre sanctification actuelle. Tant que nous sommes ici-bas, nous n'atteindrons pas la mesure de la gloire. Mais il n'y a point d'autre mesure. En outre, cette position glorieuse n'est pas seulement la mesure de notre sanctification, mais, comme cela est présenté en perfection en Christ, c'est la puissance de notre sanctification. La parole, en nous révélant ce que nous sommes et en nous occupant de Christ dans la gloire, est la puissance purificatrice. La parole et l'effet sanctifiant de Christ dans la gloire sont liés par le Seigneur dans sa prière. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Et il ajoute, « Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Le Seigneur s'est mis à part dans la gloire comme objet pour les siens sur la terre et, étant occupés de lui, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Hélas, la chrétienté a totalement failli, n'ayant pas marché à la lumière de ces grandes vérités concernant Christ et l'Assemblée. En pratique, elle a cessé de donner à Christ sa place comme chef, et, par conséquent, elle a manqué dans la soumission qui lui est due. Aussi, il n'y a guère lieu de s'étonner de l'abandon de ces relations vitales, formées selon le modèle de Christ et de l'Assemblée. Abandon qui a conduit, de la part de la femme, à un refus généralisé de la soumission au mari, et de la part du mari, à l'infidélité et au manque d'amour pour la femme. la ruine de la chrétienté, la dispersion des croyants qui a divisé la chrétienté en une multitude de sectes, peuvent entièrement être rattachés à deux mots. Les chrétiens professants ont abandonné la place de soumission à Christ qui convient à l'assemblée et ont usurpé la place d'autorité appartenant au chef. Les débuts de ces mots se sont trouvés dans l'assemblée à Corinthe. Là, les chrétiens ont établi des conducteurs à la place de Christ et se sont groupés ensuite en parties soumis aux conducteurs qu'ils s'étaient choisis. Le mal qui a commencé à Corinthe s'est pleinement développé dans la chrétienté où le cléricalisme a pratiquement mis de côté la seigneurie de Christ et où l'indépendance a remplacé la soumission à Christ. Versets 28 et 29. Après avoir présenté d'une façon si bénie la vérité de Christ et de l'Assemblée, l'apôtre reprend ses exhortations pratiques. Les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps, car ils sont si véritablement un que le mari peut considérer sa femme comme étant lui-même. Comme tel, le mari trouvera sa joie à nourrir sa femme, répondant à tous ses besoins, et à la chérir comme un objet de très grand prix. De nouveau, l'apôtre présente Christ et ses soins pour l'assemblée comme le modèle parfait des soins du mari pour sa femme. Non seulement Christ est mort pour nous dans le passé et s'occupe de nous dans le présent en vue de l'éternité, mais pendant notre pèlerinage, il veille sur nous et prend soin de nous, nous traitant comme lui-même, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Il pouvait dire à Saul de Tarse, au jour où celui-ci respirait menaces et meurtres contre les saints, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » On a dit très justement, « La chair d'un homme, c'est lui-même. » Et Christ prend soin de lui-même en prenant soin de l'assemblée. Et encore, Christ ne fait jamais défaut, et il ne peut y avoir un besoin dans l'assemblée de Christ qui ne trouve sa réponse dans le cœur de Christ. Versets 31 et 32. Le mari qui aime sa femme s'aime lui-même, et il est appelé à oublier d'autres relations pour être joint à sa femme. L'apôtre cite la Genèse, mais il établit expressément que c'est un grand mystère qui a en vue Christ et l'assemblée. Christ, comme homme, a abandonné toute relation avec Israël selon la chair pour acquérir son assemblée. Verset 33. Néanmoins, dit l'apôtre, tout en cherchant à entrer dans ces vérités éternelles du grand mystère de Christ et de l'assemblée, que chaque mari, en particulier, aime sa propre femme comme lui-même, et que la femme craigne son mari comme il convient.